vagabonde.
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 Bonjour à tous.
Bonjour à toi. Aujourd'hui, l'épitaphe.
Je ne sais quand vous allez entendre cette émission chez vous. Nous l'avons conçue autour de la Toussaint, cette célébration des morts que l'on retrouve bien entendu dans toutes les cultures. Chez nous, la vie mécanisée, numérisée, s'organise de plus en plus comme un présent qui se déroule à l'infini, nous faisant oublier les questions essentielles. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Un ethnopsychiatre très médiatique, Toby Nathan, qui soigne de nombreux patients issus de l'immigration, raconte que pour ces patients, le fait d'être loin de la terre où reposent leurs ancêtres pose de nombreux problèmes pour se situer à la fois dans l'ici et maintenant, et pour se projeter vers l'avenir. L'homme est ainsi fait que pour atteindre la pleine mesure de ses capacités, il a besoin d'énergie bienveillante léguée par ses aïeux vivants et disparus. Quoi de plus épatant que l'épitaphe pour se rappeler que sans eux, nous ne serions pas là. Le mot féminin d'épitaphe, issu du grec épitaphos, épi signifiant sur et taphos tombeau. Il s'agit donc d'une inscription apposée sur une sépulture. Souvent élogieuse, elle peut être décidée au préalable par le futur occupant du lieu qui aura la bonne idée d'évoquer de son vivant ses dernières volontés, mais elle peut également être rédigée, gravée ou déposée après inhumation par des proches, des amis. Inscrire une phrase, un texte ou quelques mots sur une sépulture prend ses racines dans l'Antiquité. Voici quelques exemples.
Thalès, 6e siècle avant Jésus-Christ, auteur du fameux théorème, dit de Thalès. Petit est ce tombeau, mais au ciel va sa gloire. Regarde, c'est celui de Thalès, grand esprit. Scipion l'Africain, 3e siècle avant Jésus-Christ, général et consul romain. Ingrate patrie, tu n'auras que mes os.
Dans l'Antiquité, les artistes étaient conviés pour peindre, célébrer et décorer les tombeaux des rois et des princes qui mouraient. C'est comme cela qu'on connaît à la fois la manière de représenter et la technique utilisée par les peintres et sculpteurs de l'époque. Ceux qui ont eu le privilège de voir l'exposition sur les Étrusques au musée Marius Vasei de Meymac savent de quoi je parle. C'était une excellente illustration de ces propos. Il n'y avait aucune raison pour que les aèdes et poètes soient exclus des hommages rendus aux défunts. Dès que l'écriture s'est libérée de ses contraintes comptables autour de 1000 ans avant Jésus-Christ, les écrivains s'en sont emparés et ont composé des épopées, des tragédies, des comédies, des poèmes, des récits permettant de stabiliser la graphie des différents alphabets. Voilà comment les poèmes, pour honorer les princes et les rois vivants ou morts, sont restés dans l'histoire. Un poète romain aquitain, Ausone, 4e siècle après Jésus-Christ, a écrit quelques épigrammes sur les héros de l'Antiquité.
Agamemnon, chef des Grecs lors de la guerre de Troie, qui avait pour objectif de ramener Hélène, femme de son frère Ménélas, enlevée par le Troyen Paris. Hélène, donc, était sa belle-sœur, et Clytemnestre sa femme. Or, Clytemnestre a assassiné Agamemnon, son mari, pour se venger du sacrifice d'Iphigénie, leur fille. Voici l'épigraphe pour Agamemnon. Moi, Agamemnon, roi des rois, fils d'Atrée, j'ai vengé la femme de mon frère et je meurs des mains de la mienne. Que m'a servi de punir dans ma douleur le ravisseur d'Hélène si Clytemnestre tue le vengeur de l'adultère? Hector, tué par Achille. C'est ici le tombeau d'Hector. Sa Troie est ensevelie avec lui. Ils reposent ensemble, puisqu'ensemble, ils ont péri. Niobé se vantait d'être plus belle et plus féconde que la déesse Leto. Pour lui clouer le bec, la déesse fit tuer les enfants de Noïbé. Un autre dieu, la prenant en pitié, la fit changer en statue de pierre à la fin de sa vie. Je vivais, je suis devenue pierre, façonnée des mains de Praxitèle. Je revis, je suis Niobé. La main de l'artiste m'a tout rendu, hors l'intelligence. Je n'en avais point quand je fonçais les dieux. Didon, reine de Carthage, abandonnée par Énée pour aller fonder Rome. Pauvre Didon, nul époux ne t'a donné le bonheur. Celui-ci meurt, tu fuis. Celui-là fuit, tu meurs. Ou encore ce poème d'un abbé érudit du XVIIe siècle. Pauvre Didon, où t'as réduite de tes maris le triste sort. L'un en mourant cause ta fuite, l'autre en fuyant cause ta mort.
Vous n'aurez pas manqué de noter, en auditeur avisé que vous êtes, qu'on est passé de l'épitaphe à l'épigramme, deux substantifs féminins pour parler de la même chose. Eh bien, pas tout à fait. L'épitaphe est destinée au tombeau, peu importe qu'elle soit élégiaque ou satirique, tandis que l'épigramme, elle, peut être apposé sur un tombeau, une statue, un monument, et ce peut être aussi une forme poétique qui n'a rien à voir avec la mort. L'épigramme la plus célèbre est celle de Voltaire à destination de son ennemi littéraire, Jean Fréron.
L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva. Radio Assivière.
Vagabonde. On connaît moins l'épitaphe croustillante consacrée à Richelieu. La voici.
Sigy, un fameux cardinal qui fit plus de mal que de bien. Le bien qu'il fit, il le fit mal. Le mal qu'il fit, il le fit bien.
Plus près de nous, d'autres épitaphes ont fleuri sur les tombes.
Des anonymes. Il vaut mieux te pleurer que de ne pas t'avoir connu. Ou, je vous l'avais bien dit que j'étais malade. Ou celle de Voltaire, je m'arrêterais de mourir s'il me venait un bon mot ou une bonne idée. et la dernière d'Alphonse Allais, Si j'y allais, sans retour.
Pour continuer, nous allons écouter ce que j'appelle l'épitaphe de François Villon, dont on ignore où et quand il est mort, aux alentours de 1463 à l'âge de 32 ans. Mais rien n'est sûr. Toujours est-il qu'à partir de cette date, on n'a plus de poésie écrite de sa main. Vous avez tous entendu parler de cette épitaphe plus connue sous le nom de Ballade des pendus. Chers auditeurs, laissez-vous porter par les vers déclamés par Hélène et soyez indulgents envers ce qu'on appelle la mauvaise graine.
Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous autres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie, et nous, les os, devenons cendre et poudre, de notre mal personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si frères, vous clamons, pas n'en devait avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tout homme non pas bon sens rassis, excusez-nous, puisque sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, âme ne nous harie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débués et lavés, et le soleil desséché et noirci, puis corbeaux nous ont les yeux cavés et arrachés la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis, puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becqueté d'oiseaux que des à coudre. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus, qui sur tous a maîtrise, garde qu'enfer n'est de nous seigneurie, à lui n'ayons que faire ni que soudre. Homme, ici, n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
Vous avez compris que des épigrammes et des épitaphes, il y en a à foison. La mort est le sujet le plus stimulant pour l'esprit parce qu'impénétrable. Parlons d'Icare, le fils de Dédale, architecte et sculpteur de grand talent connu pour avoir construit le labyrinthe qui abritait le Minotaure, au centre de la Crète. Le fils de Dédale, Icare, est devenu plus célèbre que son père en mourant papillon. Avec l'aide de son père, Icare a collé avec de la cire des ailes dans son dos et s'est envolé. Il n'a pas respecté à la lettre les consignes de son père, s'est approché du soleil et la cire ayant fondu, Icare a chu dans la mer. Un magnifique tableau de Bruegel l'Ancien appelé La chute d'Icare montre un personnage qui tombe à la mer dans l'indifférence générale tant du paysan qui laboure que du pêcheur ou des marins à proximité. Voici la magnifique épigramme que Philippe Desportes, un poète peu connu de la fin du XVIe siècle, a écrite pour lui. On écoute Icare de Philippe Desportes avec la voix d'Hélène.
Icare échu ici, le jeune audacieux, qui pour voler au ciel eut assez de courage, ici tomba son corps dégarni de plumage, laissant tout brave cœur de sa chute envieux. au bienheureux travail d'un esprit glorieux qui tire un si grand gain d'un si petit dommage, au bienheureux malheur, plein de tant d'avantages qu'il rende le vaincu des ans victorieux. Un chemin si nouveau l'étonna sa jeunesse, le pouvoir lui faillit, mais non la hardiesse, il eut pour le brûler des astres le plus beau. Il mourut poursuivant une haute aventure, le ciel fut son désir, la mer sa sépulture. Est-il plus beau dessein ou plus riche tombeau ?
Radio Vassivière.
Vagabonde.
On continue avec un poème d'Arthur Rimbaud qui n'est pas à proprement parler une épigramme, mais qu'on va dédier à tous ceux qui, dans leur dernière demeure sur Terre, attendent celle dont les contours se précisent chaque jour davantage, sans le moindre espoir de pouvoir lui échapper, comme ils ne peuvent échapper aux douleurs et souffrances de l'âge, sorte de fouet qui leur rappelle qu'ils sont encore de ce monde. Voici, lu par Hélène, Les Assis d'Arthur Rimbaud.
Noir de loupe, grêlé, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs, le sein sipute plaqué, de hargnosité vague, comme les floraisons lépreuses des vieux murs. Ils ont greffé, dans des amours épileptiques, leurs fantasques ossatures, aux grands squelettes noirs de leurs chaises, leurs pieds aux barreaux rachitiques, s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresses avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges leur ont des bontés, culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins, l'âme des vieux soleils s'allume emmaillotée dans ses tresses d'épis où fermentaient les grains. Et les assis, genoux aux dents, vers pianistes, les 10 doigts sous leur siège aux rumeurs de tambour, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes, et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Ah, ne les faites pas lever, c'est le naufrage. Ils surgissent, grondant comme des chats giflés, ouvrant lentement leurs omoplates au rage, tous leurs pantalons bouffent à leurs reins boursouflés. Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors, et leurs boutons d'habits sont des prunelles fauves qui vous accrochent l'œil au fond des corridors. Puis ils ont une main invisible qui tue. Au retour, leur regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue et vous suez, pris dans un atroce entonnoir, rassis, les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent à ceux-là qui les ont fait lever et de l'aurore au soir. Des grappes d'amygdale sous leur menton chétif s'agitant crevées. Quand l'austère sommeil a baissé leur visière, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours de chaises en lisière par lesquelles de fiers bureaux seront bordés. Des fleurs d'encre, crachant des poèmes en virgule, les bercent le long des calices accroupis, tels qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules. et leurs membres s'agacent à des barbes d'épis.
Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Voici encore plus radical, si c'est possible, sur la route vers le repos éternel. Philippe Jacoté, 92 ans, est traducteur multilingue, français, italien, allemand. Il est suisse, tout s'explique. Cet immense poète de langue française nous livre un poème à ne pas mettre à la portée de toutes les oreilles. Lu par Hélène, on écoute « Déjà ce n'est plus lui » de Philippe Jacoté.
Déjà, ce n'est plus lui, souffle arraché, méconnaissable. Cadavre, un météore nous est moins lointain. Qu'on emporte cela. Un homme, ce hasard aérien, plus grêle sous la foudre qu'insecte de verre et de tulle, ce rocher de beauté, grondeuse et de sourire, ce vase plus lourd à mesure de travaux, de souvenirs. Arrachez-lui le souffle. Pourriture. Qui se venge ? Et de quoi ? Par ce crachat ? Ah, qu'on nettoie ce lieu ! Je me redresse avec effort et je regarde. Il y a trois lumières, dirait-on. Celle du ciel, celle qui de là-haut s'écoule en moi, s'efface, et celle dont ma main trace l'ombre sur la page. L'encre serait de l'ombre. Ce ciel qui me traverse me surprend. On voudrait croire que nous sommes tourmentés pour mieux montrer le ciel, mais le tourment l'emporte sur ses envolées et la pitié noie tout, brillant d'autant de larmes que la nuit.
Pour terminer cette première vagabonde consacrée à l'épitaphe et à l'épigramme, nous allons écouter une remarquable chanson de Jean-Roger Caussimon, mise en musique et interprétée par son complice de toujours, Léo Ferré, qu'on trouve dans le disque « Il n'y a plus rien ». Ça s'appelle « Ne chantez pas la mort ».
Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le bide. C'est un sujet tabou pour poète maudit.
La chante et dès lors miracle des voyelles, il semble que la mort est la sœur de l'amour, la mort qui nous attend et l'amour qu'on appelle, et si lui ne vient pas, elle viendra toujours. La mort, la mort, la mienne n'aura pas, comme dans le Larousse, un squelette, un linceul, dans la main, une fosse. mes filles de 20 ans à chevelure rousse en voile de mariée. Elle aura ce qu'il faut. La mort, la mort. De grands yeux d'océan, une voix de génie. Des lèvres carmin, douce, elle apaisera sur sa poitrine nue mes paupières brûlées, ma gueule en parchemin. La mort, Requiem de Mozart et non dans ce macabre, pauvre valse musette au musée de Saint-Saëns. La mort, c'est la beauté, c'est l'éclair vif du sabre, c'est le doux pain total de l'esprit et des sens. La mort, la mort. Et n'allez pas confondre et les faits et la cause. La mort est délivrance, elle sait que le temps quotidiennement nous vole quelque chose, la poignée de cheveux et l'ivoire des dents. La suprême infirmière, elle survient à temps pour arrêter ce jeu. Près du soldat blessé dans la boue des rizières, chez le vieillard glacé, dans la chambre sans feu, la mort, la mort. Le temps, c'est le tic-tac monstrueux de l'amour. Dans son éternité, mais qu'advient-il de ceux qui vont à sa rencontre? Comment gagne sa vie? Où faut-il mériter? « la mort. La mort. La mort.
Pourtant, nous n'en avons pas fini avec la mort. Nous verrons ça la prochaine fois.